Bien, bonjour. Ce matin, nous allons lire le chapitre 15 de la Genèse. Nous allons voir un nouveau développement dans l'histoire d'Abraham, sa famille et l'alliance de grâce. Et donc, ce matin, nous intitulons ce message « Promesse et foi ». Chapitre 15, livre de la Genèse. Et je vous invite à suivre avec moi en commençant au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » Et c'est la parole de Dieu. Nous venons donc dans cette étude, un chapitre qui est riche, nous n'allons pas pouvoir tout voir dans ce chapitre, mais on va relever les axes, les principaux. Dans notre étude de la famille d'Abraham, et de l'alliance de grâce, nous arrivons à une étape d'une grande importance et d'une grande clarté. L'Éternel annonce à Abraham ce qu'il va faire et il entre en alliance avec le patriarche. Cette occasion est citée dans le Nouveau Testament à de nombreuses reprises et surtout dans des passages de grande importance au sujet de la justification par la foi. Et il est vrai que nous avons ici la première mention du fait que Dieu déclare juste l'homme qui a foi en lui et en sa parole. C'est le cœur du passage. Toutefois, le passage que nous abordons est bien plus large que la doctrine de la justification par la foi seule. Il concerne Abraham, un homme, sa relation avec Dieu, le vécu qu'il a avec Dieu, l'alliance de grâce et la promesse d'un salut par la grâce. Il nous faut donc veiller à ne pas nous limiter dans une simple étude théologique de la justification par la foi. Pour cela, il y a de nombreux livres qui peuvent nous aider, et puis nous pouvons faire un autre message là-dessus. Il vaut mieux, si nous voulons seulement étudier la justification par la foi, aller dans le Nouveau Testament. Importante comme cette vérité est, et cruciale comme elle a été aussi dans l'histoire du peuple de Dieu, elle n'est pas au centre de tout, comme nous allons le voir. L'incident des rois que nous avons vu la semaine dernière est terminé. Le roi de Sodome lui-même est rentré chez lui et il s'active avec ses sujets à mettre un comble à ses iniquités. Lot, gracieusement racheté de sa servitude, est retourné non pas simplement près de Sodome, non pas simplement à Sodome, mais occupé au conseil de la ville. C'est un notable dans cette ville remplie d'hommes méchants. Il est actif, mais il est aussi, nous l'apprenons dans le Nouveau Testament, de plus en plus profondément attristé et tourmenté dans son âme. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit en 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Et Abraham lui-même est retourné à son campement, près des chaînes de Mamré, c'est là qu'il s'est installé, et il est tout simplement occupé à vivre dans la présence et dans la communion de Dieu et à accomplir la vocation qui lui est échue, c'est-à-dire s'occuper des troupeaux et de sa famille et adorer le Seigneur à l'autel qu'il a bâti. Cela nous fournit un regard et une leçon sur la vie du croyant. Comme Abraham, le croyant vit la vie que Dieu lui donne sans aucun doute en venant à l'autel qu'il a dressé pour invoquer le nom de l'Éternel, mais il est comme un simple homme à qui Dieu a fait la grâce. Ça n'est pas un super-héros, ça n'est pas un surhomme, c'est un homme à qui Dieu a fait grâce. Contrairement à notre génération impie et charnelle, il n'est pas appelé à s'affirmer, à devenir quelqu'un. Il n'est pas appelé à accomplir des exploits pour servir Dieu et pour rendre son nom grand. Les exploits, c'est Dieu qui les accomplit. Et c'est lui qui rendra grand le nom d'Abraham selon sa promesse. Veillons donc à ne pas capituler devant un activisme charnel et égocentrique qui n'a rien à voir avec la communion avec Dieu et qui pourtant assaille l'Église dans notre génération. Et il y a quelque temps, j'étais passé un week-end dans une église dans un pays d'Afrique, et pendant les réunions, chaque fois que quelqu'un venait au pupitre, et que ce soit pour lancer les chants, pour lire, la parole, il y avait un slogan qui sortait de la bouche de cette personne, de toutes ces personnes, un slogan. Sauvé, et on sentait d'après l'intonation qu'il y avait des points de suspension, et toute l'assemblée, tout au moins ceux qui avaient l'habitude, répondaient pour servir. Sauvé pour servir. Et lors de nos entretiens avec les responsables, quand c'était tout à fait propice, je leur ai signalé, je dis, mais j'ai un petit problème avec votre slogan là. D'abord, c'est un slogan qui souvent perd sa force. Mais deuxièmement, si nous en croyons la parole de Dieu et notamment l'exemple d'Abraham, nous ne sommes pas sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour adorer. Et notre service fait partie de cette adoration, c'est-à-dire notre obéissance à l'appel de Dieu, notre obéissance aux circonstances que Dieu donne dans notre vie, met place dans notre vie, cela, c'est de l'adoration et c'est un service. Et nous devons veiller à ne pas nous laisser prendre par l'esprit du monde. Venons-en à notre passage. Ici, Abraham est donc rentré de sa conquête des rois, de son entretien avec le roi de Sodome, de son entretien avec Melchisédek, et voilà, nous apprenons que la parole de l'Éternel lui est adressée. Et j'intitule ce premier grand point « Ne crains point ». Ce sont d'ailleurs les paroles que l'Éternel adresse à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » Qu'est-ce que Abraham pouvait craindre? Certains, ici, y voient la peur d'un retour de la part des rois qu'il a battus quand ils vont revenir au temps des bagarres, ou alors peut-être le sentiment d'insécurité qui peut être engendré par son refus de prendre le butin offert par le roi de Sodome. Mais Abraham est un homme spirituel. En plus, c'est un homme très riche. Il n'a pas besoin des biens de Sodome. C'est un homme spirituel pour qui la relation avec Dieu prime sur toute chose. Il nous l'a montré. Oui, imparfaitement, il y a des moments où il se retrouve en Égypte, mais il est un homme spirituel qui cultive sa relation avec Dieu parce qu'elle passe devant toute autre chose. Et ce dernier, Dieu lui-même, c'est lui qui a livré les rois entre les mains d'Abraham. Donc, ne peut-il pas le protéger de représailles hypothétiques? Ici encore, on a une leçon. Souvent, nous craignons des choses qui ne se produiront jamais. Et l'antidote pour cela, c'est la vision de Dieu, c'est la vision de la relation que Dieu entretient avec les siens. Quand on prend en compte la manière dont Dieu s'adresse à lui, il est beaucoup plus probable que le patriarche ait tout habité par la pensée de sa rencontre avec Melchisédek. Il contemple en fait les développements et les indices qui concernent la promesse faite au tout commencement par Dieu au couple initial. Tout le passage est imprégné de cette postérité de la femme qui a été promise. Et la rencontre avec Melchisédek fournit suffisamment d'indices énigmatiques pour montrer à Abraham qu'il y a beaucoup plus que ce que l'œil de la chair peut détecter. Melchisédek a béni Dieu. Béni Abraham, il bénit Dieu. Car Dieu a livré les rois à Abraham. Et donc, il peut être son bouclier, n'est-ce pas? Ici, Dieu se présente comme le bouclier. Et ce terme est associé à l'idée de délivrance. Si Dieu a livré ses rois dans les mains d'Abraham, parce qu'Abraham n'avait pas vraiment une grande force, n'est-ce pas? Il peut le protéger maintenant, il peut être le bouclier. Donc un terme qui indique la délivrance. Dieu lui dit que sa récompense sera grande. Abraham a repoussé le butin de Sodome. Et en termes humains, on pourrait dire qu'il est le perdant. Mais Dieu lui montre qu'agir en enfant de Dieu ne rend jamais perdant. Et vous qui êtes croyant, vous pouvez ajouter votre amen à cette vérité. Celui qui s'en remet à Dieu n'est jamais perdant. Combien le Seigneur nous connaît et combien il répond à nos situations. Ici, nous voyons l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui dirige toutes choses, qui vient vers Abraham et il a conscience et il a compassion des sentiments, des idées, des pensées qui occupent le patriarche et qui très probablement le troublent. Certainement, pareillement, vous qui êtes vraiment un enfant de Dieu, vous pouvez dire amen à cela. Combien de fois il est venu pour répondre exactement à votre besoin, à vos questions, à votre situation. Ne crains point. Ne crains point, Abraham. Ne crains point, croyant. Deuxièmement, deuxième point, une parole, la parole dans une vision. La parole dans une vision. Alors, ne nous amusons pas à perdre notre temps en supputation digne des amoureux du sensationnel. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement friands de visions, de révélations, de transes, de toutes choses de ce genre, que c'est tout ce qu'ils voient et c'est tout ce qu'ils recherchent. La parole de Dieu n'a rien à faire avec cela. Quelle était la nature de la vision? Comment est-ce que cela s'est passé? Quels sont les détails? Ces questions, mes amis, sont des questions oisives, parce que d'une part, la parole n'y répond pas du tout, ne précise pas, et d'autre part, franchement, ces aspects, ces détails n'ont pas grande importance à ce point ici. Tout ce que Moïse montre, c'est premièrement que Dieu s'approche de son serviteur, et deuxièmement, qu'il le fait comme s'il s'approchait d'un prophète. Et donc, d'une certaine manière, il déclare, l'Éternel déclare que Abraham est prophète. Et aussi, l'Éternel déclare que dans ses échanges avec son peuple, il va utiliser le ministère prophétique, le ministère de déclaration de son dessein qui est en Christ. Et c'est pour cela que tout le ministère prophétique vise, regarde vers le Christ qui est à venir. De la même manière que tout le ministère prophétique de l'Ancien, du Nouveau Testament, je veux dire, pointe en arrière, d'une part, vers celui qui est venu, Christ, et aussi dans celui qui doit venir, Christ. Donc ici, nous avons ces deux choses-là. Il s'approche de son serviteur et il le fait comme s'approchant d'un prophète. L'expression « nouvelle » est reprise à de très nombreuses fois tout au long du ministère prophétique en Israël. C'est la première fois que nous rencontrons cette expression « la parole de l'Éternel vint ». Mais si nous continuons dans l'Ancien Testament, nous la retrouvons pratiquement sans arrêt. Et elle introduit toujours une communication de Dieu concernant le développement et l'accomplissement de son dessein de grâce. Toujours. C'est pour cela que quand nous nous approchons des prophètes, des livres prophétiques, alors, il faut reconnaître que parfois il y a des difficultés, parce qu'ils parlent comme des prophètes. Mais, nous avons ici la clé. Il parle du développement, de l'accomplissement de son dessein de grâce. Et donc, il se centre en celui qui doit venir, c'est-à-dire Christ, la postérité de la femme, celui qui est promis à Abraham, et ainsi de suite, tout au long de l'Ancien Testament. Et ici, nous lisons cette expression, et cela ne fait pas exception. Abraham est le prophète par qui Dieu va clarifier ce qu'il fait. Et effectivement, Paul et les auteurs du Nouveau Testament, Pierre par exemple, Jacques, se basent sur ce qu'ils apprennent de la vie d'Abraham pour mettre au clair, clarifier et déclarer avec grande clarté des vérités qui sont centrales au salut du peuple de Dieu, à l'œuvre de Christ. Donc, nous avons ici la parole dans une vision. Troisièmement, Seigneur, que me donneras-tu ? Là, nous sommes dans la réponse d'Abraham. L'Éternel est venu vers Abraham et il lui dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et voilà que Abraham répond. Abraham s'adresse à Dieu. Et c'est très intéressant de voir comment il s'adresse à Dieu. Cela peut nous apprendre quelle est l'assurance qu'un enfant de Dieu peut avoir. Éternel, Seigneur, éternel, verset 2, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Verset 3, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et ici, nous avons donc cette réponse. Dieu apparaît à Abraham et l'assure de sa présence ainsi que de l'accomplissement de sa promesse. Que les pensées du patriarche aient été occupées par cette promesse ou par la signification de sa rencontre avec le personnage énigmatique de Melchisédek ressort clairement de sa réponse à Dieu. On voit vraiment qu'est-ce qui occupe ses pensées. Abraham croit dans la promesse de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est à Canaan, qu'il est parmi les chênes de Mamré. Abraham ne doute pas Dieu comme certains pensent qu'il le fait, car Dieu l'a accompagné personnellement depuis Ur en Chaldée, en passant par Charan, et puis toutes ces errances dans la terre promise, et puis l'Égypte. Il l'a ramené d'Égypte. La question-réponse d'Abraham montre qu'il est face à une énigme, il est face à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Sa foi dans la promesse et la stérilité de son couple lui pose un problème. En fait, sa foi même lui pose ce problème. C'est parce qu'il croit que Dieu va accomplir cette promesse d'origine qu'il est interloqué. Parce que Dieu promet, mais maintenant il promet à quelqu'un qui est stérile, ou dont le couple est stérile tout au moins. C'est donc une question de foi. Abraham pose une question de foi. Et mes amis, n'avez-vous jamais connu cette expérience? Oh, ne craignez pas de dire que vous ne comprenez pas le dessein de Dieu. N'hésitez pas à le dire à Dieu, à lui dire, mais Seigneur, oui, je crois, mais je n'arrive pas à comprendre. Viens au secours de mon incrédulité. Oui, nous avons connu, si nous sommes véritablement croyants, nous avons connu cette expérience. Et nous voyons que dans sa foi, Abraham imagine des solutions. Pas nécessairement les plus idéales, mais des solutions tout de même, pas des solutions qui le satisfassent complètement. C'est pour ça qu'il est écartelé. Mais il ne voit pas d'autres solutions. Après tout, il n'a encore été rien dit au sujet d'un fils à lui. Il est parlé d'une postérité. Peut-être que la promesse se réalisera au travers de cet Élisée de Damas. Peut-être que Dieu veut amener Abraham à adopter cet homme. C'était une coutume, peut-être pas courante, mais qui existait. Dieu a déjà exprimé la promesse de son alliance à Abraham depuis Ur en Chaldée. Mais c'était en termes généraux. Et puis par la suite, il l'a répété. Et toujours, à chaque fois, il y a des termes qui ne sont pas tout à fait définis. Au chapitre 12, Dieu promet à Abraham je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais voilà, c'est général, n'est-ce pas? Plus loin, il lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. C'est au verset 7 du chapitre 12. Puis au chapitre 13, après le départ de Lot, Dieu vient à Abraham, vous rappelez, tout le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Chapitre 13, versets 15 et 16. Oui, Seigneur, je le crois. Ce sera probablement donc au travers d'Eliezer de Damas, parce que c'est lui qui maintenant est le premier en ligne de succession. Il n'y a pas de fils en tant que tel. N'avez-vous jamais cherché la solution à la promesse de Dieu dans les imaginations, dans le registre de la chair? Essayez de trouver une solution qui nous semble possible. Or, Dieu n'est pas le Dieu du possible, nous le verrons plus tard dans un autre passage. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et nous devons veiller à ne pas nous laisser limiter par les choses de la terre quand on parle de l'alliance de Dieu. Que me donneras-tu? Et Dieu va lui dire, et nous arrivons à un autre grand point, celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles. Dieu n'a rien à faire avec cet Eliezer de Damas. C'était probablement un homme de très grande valeur. Certains pensent que c'était le serviteur préféré d'Abraham, celui qu'il a envoyé à Charan pour trouver une épouse pour son fils, une fois que ce fils était en âge pour les épousailles. On ne sait pas. Mais Dieu n'a rien à faire dans son alliance avec cet Eliezer de Damas. Dieu n'est pas intéressé dans les arrangements humains pour accomplir ses desseins. Veillons bien à garder cette leçon à l'esprit. Il a annoncé qu'il détruira le serpent par la postérité de la femme, d'une manière qui n'implique pas l'agence de l'homme. Si c'est la postérité de la femme, cela veut dire, en termes bibliques, que l'homme, l'être humain, n'est pas impliqué dans la chose. C'est Dieu qui le fait. Et Adam a cru cette chose. C'est pour ça qu'il a appelé sa femme la mère des vivants, n'est-ce pas? Et cela a continué jusqu'à Abraham. Mais on a tendance à le mettre en oubli. Son dessein, le dessein de Dieu, s'accomplira. Mais il ne dépend pas de ce que l'homme fait, il ne dépend pas de ce que l'homme imagine, même si ce sont des solutions possibles. Et, mes amis, c'est cela la bonne nouvelle. Adam, le rebelle, ne risque pas de plonger le dessein de Dieu dans la disgrâce. Il a déjà plongé sa race dans la disgrâce, mais il ne risque pas de plonger le dessein de Dieu dans la disgrâce, parce qu'il n'est pas acteur. Abraham, le vieil homme dont la femme est stérile, ne risque pas d'amener le dessein de la grâce dans une impasse. Pas du tout, pas du tout. Ici, la promesse qui va passer par Isaac ne se centre pas sur Isaac. Le cœur de la promesse est Dieu et sa parole. Et bien entendu, le cœur de cette parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Surtout, donc, cette promesse se centre sur cette postérité qui, ultimement, se réalisera en Christ. Celui qui ne vient pas de l'homme, qui est envoyé de Dieu, celui qui n'a pas de péché pour lesquels il faut expier, et qui pourtant expie le péché pour son peuple sur la croix de Golgotha. Il est déjà là. Il est déjà là. Et si on enlève Christ, il n'y a aucun sens à tous ces passages sur l'alliance de Dieu. C'est lui que Dieu enverra et qui l'équipera pour mettre la mort à mort et pour écraser la tête du serpent. Si bien qu'aujourd'hui, quiconque est en Christ n'a plus aucune condamnation. La loi n'a plus aucune autorité sur lui. Ne peut pas l'emmener en prison. Ça n'est pas possible. Abraham, donc, nous le voyons, a imaginé une solution. Plus tard, Sarah imaginera une autre solution. Mais ici, Abraham imagine une solution. Mais ce n'est pas ce que Dieu va faire. Parce que Abraham aura plusieurs fils. Mais Dieu n'a qu'une seule postérité. Et c'est exactement ce que Paul montre dans sa lettre aux Galates. Oui, Dieu accomplira l'œuvre. Abraham ne le peut plus par la force de l'homme. Il est âgé, sa femme est âgée, et même elle est stérile, de toute façon. Celui qui vient sera fils de Dieu. Mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Cela va passer par Isaac. Celui qui vient, mes amis, le fils d'Abraham, mais aussi le fils ultime, sera un homme, pleinement homme. Nous avons déjà ici l'ébauche de l'idée de l'incarnation. Dieu aurait pu envoyer son fils comme cela. Non, c'est à travers la nature humaine. Pourquoi? Parce qu'il faut que cet envoyé, ce Messie, soit mis à mort. Rappelons-nous que cette rencontre avec Dieu fait suite avec celle que Abraham a eue avec Melchisédek, le sacrificateur roi, celui qui est venu de nulle part et qui n'a jamais de fin, autant que nous sachions. Le roi de justice, le roi de paix. Petit à petit, le puzzle s'éclaire dans l'esprit d'Abraham et Dieu lui donne une illustration de l'immensité de son dessein, ainsi que de la certitude de son accomplissement. Petit à petit, Abraham commence à réaliser que ce que Dieu fait est une chose nouvelle, qui ne prend pas de l'homme, mais qui concerne un peuple nombreux par toute la terre. Et maintenant, il lui donne donc cette illustration et la certitude de l'accomplissement de son dessein. Comme le sable et la poussière de la terre. De la même manière, Abraham lève les yeux au ciel. Le voilà qui le fait sortir de la tente et il le met devant la voûte étoilée. Et nous savons tous ce que c'est d'être rempli d'émerveillement, même à la multitude, la foison d'étoiles. On ne peut même pas toutes les détecter. Et il dit, compte les étoiles, compte les étoiles. C'est ce que moi, l'Éternel, je vais faire. Et bien entendu, nous-mêmes, vivant dans la Nouvelle Alliance, nous savons qu'il ne s'agit pas de l'Israël national ici, mais beaucoup plus. Et aujourd'hui, pensons aux croyants que nous connaissons dans tous les pays du monde, dans toutes les familles du monde, n'est-ce pas, et multipliés par les générations. Voilà la révélation que Dieu donne à Abraham sous cette voile, cette étendue étoilée. Nous voyons donc ici que nous ne sommes pas dans le simple registre de la famille d'Abraham. Ce n'est pas simplement une question d'Israël. Dieu fait venir un homme. Il le fait venir contre toute espérance, quand l'homme ne peut plus rien. Et dans son dessein de grâce, il englobe, l'Éternel englobe toutes les familles de la terre. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir pour tout être humain qui vit sur la terre. Et c'est pour cela que le croyant a à cœur d'aller annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus à tout être humain, sachant que l'Esprit œuvre dans le cœur de ceux que Dieu a aimés de toute éternité. L'homme ne peut pas imaginer l'immensité du dessein de Dieu. L'homme peut encore moins produire le dessein de Dieu. Il ne peut pas l'amener à son accomplissement. Alors, qu'avons-nous à faire avec ce « donne ta vie à Jésus », ce « laisse-le entrer dans ton cœur » ? Non, non. Abraham n'est pas dans ce registre du tout. Non. Là, il est face, en présence de Dieu, face à la promesse de Dieu. Et parce qu'il connaît Dieu, il croit. Il croit. On aurait probablement pu lui poser des tas de questions auxquelles il n'aurait pas pu répondre. Mais il connaît Dieu. Et donc, il croit. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. Abraham eut confiance. L'Éternel le lui imputa à justice. Déclaré juste aux yeux de Dieu. Peut-être que nous sommes trop habitués à cette phrase et que nous la contemplons, nous la lisons de manière religieuse, sans, elle a perdu ses dents, elle a perdu sa force. Mais voilà qu'un homme qui est rebelle par nature, qui est séparé de Dieu et dont Dieu est séparé à cause du péché, voilà que maintenant cet homme pécheur est déclaré juste aux yeux de Dieu. Et il y a lieu de mettre un point d'exclamation et de courber notre cœur dans l'adoration. La réponse de la foi à la promesse de Dieu. Voilà ce qui est dans le cœur d'Abraham à ce moment-là. Veillons toutefois à ne pas faire dépendre cette merveilleuse vérité du salut de la foi d'Abraham de sa foi. Abraham croit, mais il ne croit pas dans sa foi. Ce n'est pas parce qu'il croit qu'il est justifié. Il est justifié parce que Dieu lui a donné la vie et cette vie croit. Et sa foi est la manifestation de la grâce de Dieu envers lui. Le patriarche n'est pas reconnu juste parce qu'il a exercé cette foi. Toute la grâce du salut serait alors détruite parce que Abraham aurait gagné le salut avec la foi qu'il aurait produite. Et toute la Bible s'inscrit en faux contre cela, malgré le fait qu'une grande partie de la religion de nos jours déclare précisément ce message. Non, depuis que Dieu lui est apparu en Ur en Chaldée, Abraham est un homme qui est juste aux yeux de Dieu. Sinon, comment est-ce que Dieu pourrait avoir communion avec lui? Ça n'est pas possible. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu l'appelle vers la terre promise, parce que c'est l'homme qui l'a choisi. Et c'est pour cela que Dieu reçoit son adoration aux divers autels que le patriarche a dressés à droite à gauche. Ici, dans notre passage, dans cette circonstance, Abraham, dont la vie a été transformée par la grâce de Dieu, qui est déjà au bénéfice de l'œuvre de Christ, qui interviendra beaucoup plus tard, Abraham, dont le cœur a été changé, c'est un homme qui quitte sa contrée, sa patrie, c'est un homme qui peut laisser aller les richesses de Sodome. Chose difficile pour un religieux, n'est-ce pas? Abraham, qui est un cœur changé, un cœur qui maintenant vit de la vie de Dieu. Abraham se saisit au moyen de la foi, de la promesse que Dieu lui fait dans sa grâce. Cette foi, c'est la main de cette vie nouvelle qu'il a reçue de Dieu. Celui qui a été déclaré juste lorsque Dieu est venu vers lui, est maintenant manifesté comme étant juste, accepté de Dieu. Et bien entendu, il est accepté de Dieu à cause de l'œuvre d'un autre qui permet à Dieu d'ouvrir la porte. Le voile est déchiré dans le sacrifice de Christ et de Christ seul. Tout le monde peut voir maintenant qu'Abraham est un juste, est juste devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a foi, il fait confiance à ce que Dieu dit envers et contre tout. Il y a beaucoup de comment qu'il ne connaît pas. Quantité de détails dont il n'a aucune idée. Mais Dieu a parlé. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Dieu qu'il est, sa parole est digne de confiance. Quiconque est connu de Dieu se saisit de sa promesse par la foi. Par la foi que Dieu lui a donnée. Et il donne alors la preuve qu'il se tient devant Dieu dans la justice. Dans la justice du substitut que Dieu a désigné, qui était dans cette promesse. Ce n'est pas la justice de sa foi. C'est une erreur tout aussi courante que funeste. Mais c'est la justice qui vient en résultat de la promesse. Et cela, mes amis, c'est un point fondamental de la religion biblique, de la foi biblique. Abraham ne sait pas grand-chose du comment, mais il sait qui, et cela lui suffit. Et pour moi, pour vous, est-ce que je connais celui qui a fait la promesse? Celui qui est fidèle, est-ce que je le connais? Ou bien, est-ce que je remplis ma vie, est-ce que je remplis ma pensée de détails, de connaissances au sujet du salut que j'ai pu glaner dans les pages de la Bible? Telle est la question. À ceux qui étaient, dans ce cas, des gens qui se reposaient sur tout ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils faisaient pour Dieu, eh bien, des hommes qui faisaient beaucoup et des choses importantes, n'est-ce pas? Eh bien, le Sauveur répond tout simplement, « Je ne vous ai jamais connu. » Il n'y a aucune relation. Et pourtant, ils étaient regardés comme les chefs religieux de la nation où Dieu avait placé son nom dans l'Ancienne Alliance. « Je ne vous ai jamais connu. » Oh, mon ami, est-ce que Dieu se tourne vers toi et dit, je t'ai connu. Je t'ai connu même avant que tu sois né, comme il a dit à son prophète autrefois. Donc, nous avons ici le fait que Abraham manifeste son statut de juste devant Dieu par sa foi qui lui est donnée en raison de l'œuvre de Christ. Christ est là tout au long. Nous le verrons encore par la suite dans l'histoire d'Abraham. Passons à un autre point, et c'est notre dernier point, la ratification. La ratification. Une bonne partie de ce passage est consacrée à ce rituel qui est un peu étrange pour nous. Parce que dans sa grâce, c'est-à-dire, et je le répète, sans y être obligé, Dieu ratifie l'assurance de sa promesse en entrant en alliance avec Abraham. Au moyen d'un rituel coutumier, assez complexe d'ailleurs, il fait alliance, et le terme veut dire il coupe alliance avec son enfant. Il n'a pas besoin de cela, mais il le fait afin de manifester la totale assurance par des choses immuables, son serment et lui-même, que cette alliance tient et qu'elle est véritable. L'alliance n'est pas un marché avec des négociations comme entre deux égaux. Il y a un certain mot pour ce genre d'alliance, mais ce n'est pas l'alliance ici. C'est l'engagement avec serment du Dieu de grâce que son alliance est sûre et qu'elle parviendra à son accomplissement. Elle touchera certainement, assurément, toutes les familles de la terre jusqu'à la fin de l'âge. Mais ce n'est pas une alliance qui dépend de l'homme, comme je l'ai dit. On n'a pas de négociation ici, on n'a pas ce terme d'alliance qui veut dire que deux égaux viennent en alliance, ce genre de contrat. Non, elle n'est pas non plus à la mesure de l'homme pécheur. En fait, tout bénéficiaire qu'il est de cette alliance, elle ne fait pas appel à l'homme pour s'accomplir. C'est une alliance dans la divinité qui est déjà décrétée, déjà conçue, déjà mise en effet et qui maintenant est appuyée par le rituel de cette ratification. Pour sûr, Abraham a reçu une promesse certaine et sûre, mais il ne la possédera que par la foi, et il ne la possède que par la foi, jusqu'à ce que la foi se transforme en vue. Lui-même, dit l'Éternel, s'en ira en paix vers ses pères. Il sera enseveli après une vieillesse heureuse. Mon ami qui est croyant, est-ce que vous avancez vers une vieillesse heureuse? Est-ce que vous serez enterré, enseveli, en paix auprès de vos pères? Même à la porte de la mort, ce sera par la foi qu'Abraham se tiendra sur la promesse de Dieu. Il ne possédera aucune portion de terre dans la terre promise, sinon là où les siens sont ensevelis. Mais par la foi, Dieu lui annonce ce qu'il va faire, et par la foi, Abraham croit et voit ce que Dieu va faire. Non pas simplement qu'une nation va hériter ses arpents de terre en Palestine, mais plus loin que cela, parce que Abraham voyait cette cité dont l'architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même. Donc jusqu'à sa mort, il marchera par la foi. De la même manière que tout croyant aujourd'hui, Dieu a son propre temps, son propre calendrier. Plusieurs générations surviendront avant que ce peuple promis n'entre dans cette terre promise. Pourquoi toutes ces générations? On peut avoir des idées, mais en fait, c'est simplement dans le dessein de Dieu. N'allons pas gratter là où nous n'avons pas besoin de gratter. Plusieurs générations, et nous qui connaissons l'histoire, nous savons de quoi il est parlé ici. Abraham ne le savait pas dans les détails. Le peuple promis entrera dans la terre promise. Mais là encore, ce n'est qu'une image, parce que la terre promise ne sera jamais conquise totalement. Et assez souvent, elle sera envahie, n'est-ce pas, dans la suite de l'histoire. C'est pourquoi il y a encore un repos qui est réservé pour le peuple de Dieu. Ça n'est pas le vrai repos en Canaan, il y a un autre repos. Et c'est ce repos qui est en Christ seul. C'est en lui qu'il n'y a plus aucune invasion, il n'y a plus aucun arpent de terre qui n'est pas conquis. Lui a tout accompli. Et en lui, le croyant se tient parfait dans la présence de Dieu, même dans l'imperfection de sa chair, car il vit dans la foi au Fils de Dieu. Donc Dieu a son propre temps, et c'est ce qui est illustré là. Il y aura donc des générations, il y aura des épreuves, il y aura la servitude, l'esclavage, il y aura l'oppression, il y aura l'incrédulité dans le désert et toutes sortes de choses, ces 40 années d'errance et ainsi de suite. Et tout cela est illustré par le sommeil profond, par la frayeur, par l'obscurité que nous voyons ici au verset 12 et que Abraham éprouve là par rapport à la promesse. Au point où tout espoir est éteint et hors d'atteinte, le Dieu de l'impossible ouvrira la porte et fera avancer son dessein. Alors que à Ur en Chaldée, il n'y a pratiquement que des impies, des idolâtres, Dieu ouvre la porte du cœur d'un homme. Plus tard, alors qu'il n'y a aucun espoir, un homme de 99 ans, une femme de 90 ans, stérile de surcroît, Dieu ouvre la porte et Isaac, le rire est là. Et dans un temps où même les religieux qui connaissaient la loi, la volonté de Dieu, étaient complètement dans l'égarement, Dieu fait survenir celui qui ne vient pas de l'homme, Et il accomplit le dessein de Dieu parfaitement. Il libère son peuple. Tout est accompli. C'est ce que nous voyons ici, c'est ce que nous voyons dans les évangiles. Dieu est le Dieu de l'impossible. Combien de fois, et mon ami, mes amis, peut-être actuellement, en ce moment même, vous êtes dans des situations impossibles. Vous êtes au bout du rouleau. Je ne parle pas d'une manière sentimentale, émotionnelle ou même psychologique, mais réellement, vous êtes au bout de vous-même. Personne ne le sait autour. Peut-être que ces choses vous empêchent de dormir la nuit, vous travaillez et tout cela. Sachez qu'en vous approchant du Dieu de la Bible, vous vous approchez du Dieu de l'impossible, qui fait survenir les choses qui ne sont pas et qui, dès avant toute chose, sait ce qu'il va faire. Tel est notre Dieu ici. Pour nous, nous avons vu la naissance d'Isaac, la croissance de la famille de Jacob. Nous avons lu au sujet de la sortie d'Égypte par un peuple nombreux. Nous avons vu finalement la venue de ce Messie et la naissance de son Église. Nous, nous comptons parmi les membres de ce peuple qui touche toutes les familles de la terre. Mais la question se pose, non pas de savoir si nous comprenons ces choses et leurs aboutissements, mais bien plutôt, est-ce que nous connaissons ce Dieu qui a fait cette promesse incroyable dès cette période éloignée? Le connaissant, avons-nous confiance que bien que ce qu'il promet soit au-delà de l'imagination que l'homme peut avoir, il le fera. Vous voyez, la familiarité avec ce que Dieu a fait au cours de notre histoire peut nous voiler le fait que son dessein est un dessein qui est au-delà de toute capacité humaine de croire. Incroyable! C'est un dessein que lui seul accomplit et qui n'appartient pas à ce monde. Est-ce que nous en sommes à ce point? Est-ce que j'en suis à ce point? Telle est la question, n'est-ce pas? Christ est venu, il a accompli l'œuvre, ayant offert le seul sacrifice éternellement efficace, parce qu'il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ayant fait cela, il est allé présenter, au-delà du vrai voile, le sang qui parle de meilleures choses que le sang d'Abel. C'est un sang qui parle de pardon. C'est un sang qui parle de liberté. C'est un sang qui parle de communion, de justice. C'est un sang qui parle de bien meilleures choses. Il est maintenant assis à la droite du Père. Il est au repos, dans la gloire. Et il revient. Il revient. Posons-nous la question, est-ce que Dieu m'a donné d'avoir confiance en lui? Et est-ce que ce qu'il m'a donné d'avoir confiance, est-ce que ainsi cela est imputé, m'est imputé à justice? Oh, la première réaction de votre cœur, je le sais, c'est comme pour moi, c'est « je ne suis pas digne ». Alors nous n'avons rien compris. Bien entendu que nous ne sommes pas dignes. C'est pour cela que Dieu doit œuvrer dans sa grâce. Mais si Dieu l'a dit, est-ce que c'est vrai? Si Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles, et si tu arrives à compter les étoiles, tu pourras compter ta postérité. Si Dieu a dit cela, et que c'est vrai, alors quand il me dit que le salut est parfaitement accompli en Jésus-Christ, et que celui qui vient dans la foi à Jésus-Christ, qui le confesse de la bouche, est sauvé, alors cela est vrai. Mettons les objections de côté et tenons-nous dans cette foi qui se saisit de la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne dans sa grâce de saisir ces choses, qu'elles nous habitent et que notre cœur soit habité par la certitude que ce que Dieu a dit est vrai. Amen.